Le huitième soleil par Richard Keller. Chapitre 22. La nouvelle se propagea rapidement parmi les différents services de police chargés de la sécurité dans la cité des Doges. Les fantasmes allaient bon train sur l'identité de l'inconnu du campanile. La belle blonde hérita de ce surnom qui coulait de source. Elle méritait cette appellation et son exhibition aérienne laisserait un souvenir pérenne dans les esprits des machos italiens. Le bureau du commandant Litchi s'apparentait à une tour de contrôle. Il y régnait une effervescence inhabituelle. Les hommes défilaient, les ordres fusaient. La mécanique semblait bien huilée. Gilles et Sagol, présents dans la pièce, analysaient d'un œil expert le déploiement des moyens et l'orientation choisie par leurs homologues transalpins. Les premières constatations plaçaient les méthodes de travail sur un pied d'égalité. Les affaires criminelles se ressemblaient de chaque côté des Alpes. Les deux gendarmes restaient volontairement sur la réserve. Ils respectaient leur rôle d'invités privilégiés. Ce comportement leur coûtait, car ils préféraient l'action à l'observation. Cela ne les empêchait nullement d'avoir quelques idées sur la direction à donner aux investigations. Ils échangeaient leur point de vue sur le sujet lorsque le commandant Litchi s'approcha d'eux. En toute simplicité, il déclara que les Français, disposant de toutes les compétences requises, participerait à la recherche de la vérité. Les deux hommes sourirent et se joignirent à la cellule qui planchait dans un coin de la pièce. Ils appréciaient la complicité de leur collègue Litchi et sa volonté de les intégrer. Le séjour se déroulait dans un excellent état d'esprit. Chaque année, Venise enregistrait un grand nombre de meurtres et de suicides. Cependant, l'affaire de la colombine suspendue à un câble du campanile se révélait unique. La police n'avait jamais été confrontée à une situation de ce genre. De nombreux dépressifs romantiques choisissaient la cité lacustre pour en terminer avec les difficultés terrestres. Ils voulaient finir en beauté et marquer d'un ultime message leur départ pour un ailleurs. Litchi prenait connaissance des maigres éléments recueillis. Le mystère restait entier et la partie s'annonçait difficile. La ville accueillait chaque année plus de 12 millions de touristes. Le carnaval drainait des milliers de visiteurs et le pic de fréquentation se produisait à ce moment-là. Il fallait composer avec tous ces paramètres pour tenter de comprendre ce qui s'était réellement passé et identifier le ou les coupables. Dans l'attente des premiers résultats de l'autopsie, Litchi et ses collègues français visionnèrent les premières photos. Une trentaine de clichés avaient été disposés sur une table en verre. Les trois hommes les scrutèrent attentivement, mais ils ne révélèrent rien de passionnant. Pas le moindre indice à se mettre sous la dent. Une série montrait la jeune femme, avec ou sans son loup noir sur le visage, étendue sur les pavés. D'autres épreuves avaient immortalisé la victime durant sa descente sur le filin. Les photographes s'étaient focalisés sur la colombine. Aucun cliché ne permettait d'examiner une vue d'ensemble et surtout le sommet du campanile. Il serait intéressant de voir le balustre au moment où la femme bascule le long du câble, déclara Gilles. Le commandant Litchi convint de la nécessité de récupérer d'autres photos prises à ce moment-là. Il décida de solliciter les professionnels concernés et ordonna à ses hommes de recenser et d'auditionner les journalistes de télévision et les photographes de presse. Il lui paraissait impensable qu'aucune preuve n'ait été enregistrée dans la mémoire d'un appareil numérique ou d'une caméra. La loi des nombres l'incitait à espérer que le salut viendrait d'une photo de la scène du crime. Toutes les troupes disponibles connaissaient leur objectif. Elles s'apprêtaient à recueillir les déclarations des témoins et à visionner tout ce qui se rapportait à ce meurtre. Aucune piste ne devait être écartée sans en référer aux autres membres de la cellule. La machine se mettait en place, et aucun journaliste n'échappa à la question. Les rencontres avec les reporters, caméramans et photographes de presse se déroulèrent dans une saine ambiance de collaboration. Quelques-uns tentèrent d'en apprendre plus, un peu plus. La chasse aux scoops sévissait aussi en Italie. Les sbires de Litchi ne lâchèrent rien. Ils savaient être volubiles et se taire. Une spécialité latine, en quelque sorte. Le visionnage des films ne donna rien de concret. Un seul enregistrement d'un caméraman de la RAI montrait le balustre du campanile. Ils purent repérer la présence d'un personnage près de la colombine. Mais malheureusement, l'ombre ne permettait pas de distinguer clairement cette silhouette. Le commandant tempêta contre le sort et les métiers de l'image. Tous des moutons de Panurge. Ils filment la même scène alors que le véritable événement se déroule ailleurs. D'autres enquêteurs interrogèrent le personnel du campanile. Chaque jour, des centaines de personnes défilaient et leur mémoire n'enregistrait pas le visage de tous ces visiteurs. La caissière ne se souvint pas d'avoir vendu un billet à la jeune femme blonde. En outre, son déguisement empêchait d'affirmer qu'on l'avait vue, surtout en cette période de carnaval où l'on comptait de nombreuses colombines. L'employé précisa que l'accès à la tour avait été interrompu pendant une trentaine de minutes afin de permettre la descente de la vraie colombine, celle qui ouvre les festivités sur la place chaque année. La victime avait probablement profité de son costume pour arriver à tromper la vigilance des gardiens et monter jusqu'au clocher malgré la surveillance. Les policiers firent une découverte importante. Les gardes affectés au sommet du campanile acceptaient quelques personnes pendant le spectacle. Ils avouèrent la présence de 3 ou 4 individus, mais ils ne purent en décrire aucun. Ils bafouillèrent en expliquant que cela ne représentait aucun danger si le nombre de spectateurs était restreint. Ils mesuraient à présent les conséquences de leur erreur d'appréciation. Désormais, les enquêteurs devaient essayer de retrouver les 3 ou 4 témoins de la scène. Autant chercher une aiguille dans une meule de foin. Toutefois, ils avancèrent une hypothèse. Si 4 personnes au maximum se trouvaient dans le campanile, l'une d'entre elles étant partie par les airs, logiquement, il en restait 3. Il aurait fallu disposer d'un signalement précis, mais les gardes ne parvenaient même pas à affirmer qu'il s'agissait d'hommes ou de femmes et dans quelle proportion. Cette piste se transforma rapidement en impasse. Un travail de fourmi s'effectuait pendant que les marquis et les princesses s'en donnaient à cœur joie et vivaient tranquillement leur passion. Le carnaval battait son plein et les enquêteurs croisaient des centaines de gens costumés. Qui se cachait derrière les masques de la fête? Ils n'obtinrent pas de réponse. La dissimulation avait envahi le pavé vénitien. La tournée des hôtels n'apporta pas de meilleurs résultats. Du plus délabré au plus luxueux, aucun ne se souvenait du visage de Colombine. Les portiers scrutèrent les photos en vain, et l'inconnue du campanile resta mystérieuse pour eux aussi. La difficulté résidait dans le fait qu'un nombre important de touristes se présentait dans les pensions et les palaces en tenue de carnaval. Cela apportait un peu de piment et de mystère. La clientèle adorait se projeter dans une autre époque. Le déguisement participait à ce dépaysement. Le jeu de rôle se substituait au quotidien. Dans son bureau, Roberto Licci s'assombrissait davantage au fur et à mesure que ses subordonnés lui transmettaient leurs rapports. Il devinait, à la mine de ses collaborateurs, le résultat de leurs investigations et il enrageait de piétiner dans cette enquête. En bon policier, il détestait ne pas trouver de solution aux problèmes posés. L'énigme de la jeune femme blonde le fascinait. Il attendait les enquêteurs envoyés sur les îles, au Lido et à la Punta Sabbioni, car il ne fallait rien négliger. La Colombine résidait peut-être à l'extérieur de la cité. Sagol et Gilles demandèrent à examiner le cadavre. Ils procédaient toujours ainsi. Ils arrivaient à faire parler les morts. Ils faisaient entièrement confiance à leurs collègues italiens. Mais ils savaient par expérience que la vérité se cache parfois dans un détail infime qui en révèle d'autres. Cette méthode permettait d'envisager l'enquête sous un angle différent et la vision de l'affaire s'en trouvait chamboulée. Ils partirent en direction du service médico-légal qui devait pratiquer l'autopsie de la victime. La beauté cadavérique de la jeune femme perturba les deux hommes. Elle rayonnait dans sa froideur. En dépit de leur grande expérience criminelle, leur rendez-vous à la morgue les troubla. Ils ne desserrèrent pas les dents pendant de longues minutes. Sagol, le premier, rompit le silence. Il déclara que ce visage lui semblait familier, mais sa mémoire visuelle ne lui permit pas d'approfondir. Gilles éprouvait la même sensation. Il pensait qu'il fallait transmettre une photo au service de l'identité judiciaire, car il s'agissait peut-être d'une ressortissante française. Ils prirent congé du médecin légiste, qui préparait minutieusement son matériel. Dans les locaux policiers, plus particulièrement dans le bureau de Litchi, l'ambiance n'était pas à l'euphorie. Les enquêteurs étaient revenus des îles et ils rentraient bredouilles. Aucune prise, pas une touche, rien. Le ciel s'obscurcissait au-dessus d'eux et les autorités ne tarderaient pas à réclamer des résultats. L'éternelle exigence des politiciens allait s'exprimer. Ils voulaient des têtes pour satisfaire l'électorat. Les hommes du commandant Litchi effectuaient des recoupements auprès des gondoliers. Eux aussi voyaient et entendaient beaucoup de choses au fil de l'eau. Ils étaient souvent témoins de confidences échangées sur les banquettes des gondoles, dans le tumulte du Grand Canal ou dans le calme des petites passes. Les amoureux oubliaient le reste du monde et se laissaient aller à parler librement en présence de leur guide. Cependant, les gondoliers arrivèrent au même constat. Ils ne pouvaient identifier avec certitude un individu masqué et costumé. La difficulté se révélait de plus en plus insurmontable. Les amis des pigeons ne furent guère loquaces. Ils braillaient davantage lors de la vente des sachets de graines de maïs. À la demande de Sagol, Litchi envoya des hommes questionner les grainetiers de Saint-Marc. Les policiers interrogèrent sans succès une dizaine de vendeurs. Ils avaient vu au moins 50 colombines. Le carnaval protégeait les assassins. L'anonymat permettait tous les forfaits.